Et ma prière, c'est que lorsqu'on chante des chants, bon, tous les chants, mais parfois certains chants comme celui-là et d'autres, qu'on réfléchisse bien aux paroles, parce que, bon, la mélodie peut être très jolie et tout, mais quand on réfléchit aux paroles et on dit, voilà, Jésus va venir, levons les têtes, il va venir, et source de vie, de paix, d'amour, et là, on prend mon âme. Donc voilà, vraiment de paroles fortes, n'hésitez pas, vous prenez le recueil, vous méditez ces paroles. Donc voilà, je vous encourage dans cela. Ce matin, nous serons dans le livre des psaumes. Le livre des psaumes, un psaume en particulier que vous connaissez sûrement, c'est le psaume 139. Un psaume qui reprend, du moins pour moi, lorsque je lis ce psaume, je me dis, oh là, il y a beaucoup de progrès à faire. En même temps, je suis tellement encouragé, tellement fortifié lorsque je lis ce psaume. Et dans ce psaume, nous allons voir que notre vision de Dieu doit constamment être rééquilibré. Pourquoi? Parce que Dieu, comme on ne le voit pas, nous voyons ce monde autour de nous, nous voyons nos manquements, nous voyons le péché, l'injustice qui est autour de nous, nous pouvons céder à la tentation de penser soit que Dieu n'est pas là, soit Dieu est indifférent, soit Dieu est tellement occupé avec autre chose que finalement, ma vie à moi ne vaut pas grand-chose, alors il a des choses tellement plus importantes à faire. Et avec ce chapitre, psaume 139, David, qui en est l'auteur, nous montre que il faut rééquilibrer, parce que Dieu, il n'est pas du tout comme ça. Dieu, il est tout autre. Et justement, ce psaume que vous connaissez peut-être bien, nous allons lire dans un premier temps tout le chapitre, ensuite je prierai et on prendra quelques minutes pour examiner un peu plus en détail ces versets. Le psaume 139 à partir de verset 1. Au chef des chantres de David, psaume. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit ? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscurité pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables. Et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'étais fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existe. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Ô Dieu, puisses-tu faire mourir le méchant, homme de sang, éloignez-vous de moi. Ils parlent de toi d'une manière criminelle. Ils prennent ton nom pour mentir, eux, tes ennemis. Éternel, n'aurais-je pas de la haine pour ceux qui te haïssent, du dégoût pour ceux qui s'élèvent contre toi? Je les hais d'une parfaite haine. Ils sont pour moi des ennemis. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Prions, s'il vous plaît. Oui, Seigneur, nous sommes devant toi, devant ta parole, et nous demandons ton aide, déjà pour la comprendre, et que tu puisses enlever tout obstacle dans notre cœur, dans notre vie, qui puisse nous empêcher de recevoir cette parole et de la mettre en pratique, que ta parole puissante puisse accomplir l'œuvre pour laquelle tu l'as envoyée, que tu puisses nous fortifier tous, agir dans notre cœur, et que toute la gloire te revienne, parce que ce sera toi qui l'auras fait. En ton nom. Amen. Lorsque nous pensons au roi David, peut-être la première chose à laquelle nous pensons, c'est toute sa gloire, toute la richesse qu'il avait. Peut-être on pense au péché qu'il a commis, quand même, l'adultère, le meurtre, l'idolâtrie dans laquelle il est tombé. Mais aussi, nous pensons à David dans sa relation avec Dieu. C'était un homme remarquable qui a eu une relation avec Dieu tellement étroite, tellement intime, et qui a appris beaucoup de choses à travers des difficultés par lesquelles il est passé. Et David, il en a connu. Son Saül, qui en voulait à sa vie, alors que David, lui, n'avait rien fait. Des guerres, qu'il a eu des moments un peu de, on va dire, de déprime. Vous lisez les psaumes, et certains psaumes de David, et on sent l'angoisse en lui, on sent qu'il est vraiment au fond. Mais en même temps, vous prenez d'autres psaumes, et puis les auteurs, la louange qu'il exprime envers Dieu, c'est vraiment quelque chose de formidable. Et toujours, on revient à Dieu. Et David avait cette conception de Dieu juste, bien sûr. Et c'est une conception de Dieu, des vérités concernant Dieu, auxquelles nous aussi, pratiquement 3000 ans plus tard, auxquelles nous devons être aussi attachés. Tout comme David, parfois nous sommes attaqués. Tout comme David, parfois on est injuste envers nous. Nous sommes pour le bien, va dire David, et eux, ils sont pour le mal. Ils sont pour l'injustice. N'est-ce pas un peu notre contexte aujourd'hui? David faisait face à beaucoup de difficultés. David avait aussi des joies par moment, mais aussi beaucoup de difficultés. Et à chaque moment, David avait besoin de se retourner vers Dieu et de dire, Dieu, je place ma confiance en toi. Et c'est toi, celui dont j'ai besoin pour faire face à chaque jour. David avait beau être le roi d'Israël, il avait besoin de Dieu. Et nous aussi, aujourd'hui, 21e siècle, le 19 août 2018, à Vernon, nous avons besoin de Dieu, et nous avons besoin que notre pensée, notre idée de Dieu, ce à quoi nous pensons lorsque nous pensons à Dieu, soit rééquilibrée. Parce qu'il se peut qu'on ait dévié un peu. Et que notre idée de Dieu, notre pensée concernant Dieu, ne soit pas tout à fait juste. Alors, nous revenons au verset 1 de ce verset. J'aimerais attirer votre attention sur quelque chose. Bien sûr, ici, nous avons affaire à un chant, comme la plupart des psaumes. Ceci devait être chanté. C'était un chant de louange envers Dieu, au chef des chantres de David, psaume. Et regardez la fin de verset 1, « Éternel ». Donc le Yahvé, le Dieu de l'Alliance, tu me sondes et tu me connais. Parce que Dieu sait toutes choses. Et David va développer cette idée dans le verset qui suit. Mais maintenant, prenez le dernier verset. L'avant-dernier verset, excusez-moi. Verset 23. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Et pourtant, verset 1, David avait déjà dit, Dieu, tu le sais, c'est ce que tu fais, tu me sondes, tu me connais. Et là, à la fin, c'est comme s'il appelle à Dieu à le faire. Mais attendez, Dieu, il le fait déjà. Alors, qu'est-ce que David exprime ici? Et finalement, David a reconnu quelque chose qui est vrai de chacun de nous. c'est que malheureusement, nous pouvons mettre des obstacles à l'œuvre que Dieu veut faire en nous. Quand Dieu vient avec sa lumière dans notre vie, eh ben, parfois, il va mettre en lumière des choses qui ne sont pas très plaisantes. Dieu va prendre sa lumière et va aller jusqu'aux recoins les plus reculés, si on peut imaginer ainsi, de notre vie. Et parfois, ce qui s'y trouve n'est pas très plaisant, n'est pas à la gloire de Dieu. Et ce qui n'est pas à la gloire de Dieu, ben, on voudrait un peu cacher ça, n'est-ce pas ? Notre première attitude, notre réaction, c'est « Ah, ça ne plaît pas à Dieu, je vais un peu cacher ça. » Et David, dans ce premier verset, dit bah, « Dieu, tu sondes, tu connais, on n'y peut rien. » Et il termine ce chapitre en disant « Mais Dieu, je ne veux pas du tout qu'il y ait obstacle de ma part, comme s'il pouvait en avoir, à ce que toi, tu saches tout de ma vie. » Je ne veux rien faire de mon côté pour empêcher à ce que ton œuvre se fasse dans ma vie. Et quelle prière de la part de David. Et sa prière n'est pas pour que Dieu agisse plus puissamment. Non, Dieu, il est puissant, il agit toujours puissamment. Mais finalement, la prière de David, ici, c'est bah, « Dieu, aide-moi à ne pas dresser d'obstacles. » À ne rien mettre qui empêcherait à ce que toi, tu as prévu d'accomplir dans ma vie, se fasse. Je ne veux rien cacher de toi, Dieu. De toutes les façons, on ne peut pas. Il va développer cette idée. Mais il dit, je veux même pas le désir de faire ça. Et avec ce premier et cet avant-dernier verset, David est en train de montrer que bah, Dieu, même s'il sait tout, il s'attend à ce que notre cœur soit réceptif. Dieu ne va pas forcer. Dieu veut qu'on s'ouvre à lui volontairement. Et déjà de se poser la question, eh ben, est-ce que je veux vraiment, mais vraiment, que Dieu apporte sa lumière partout dans ma vie? Et c'est une grande question, parce que bah, parfois, comme j'ai dit, il y a des choses, on n'en est pas fier. On a un peu la honte, on veut cacher, on ne veut pas que tout le monde sache. Surtout lorsqu'il s'agit soit du péché ou de tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Mais si nous essayons de cacher quoi que ce soit de Dieu, bah, déjà c'est inutile, parce qu'il voit, mais c'est contre-productif pour nous. Parce que si Dieu apporte sa lumière dans notre vie, ben c'est pour notre bien, comme on va le voir dans ce passage. Alors, ayons cette attitude de David, ben Dieu, comme tu sais déjà toutes choses, ben aide-moi à ne jamais mettre d'obstacle à ce que ta lumière apporte cet éclaircissement dans ma vie. Alors, verset 2, nous y revenons. David va reconnaître que, bien sûr, Dieu, bah, il sait toutes choses. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Hein? Pourquoi est-ce que Dieu serait intéressé par le fait que je me lève ou que je m'assoie? Qu'est-ce que ça peut lui faire? Le Dieu de l'univers qui a créé toutes choses par sa sagesse et par sa parole, qui tient toutes choses par sa parole puissante, le fait que moi je m'assoie ou que je me lève, qu'est-ce que ça peut lui faire? Et pourtant, David montre ici que Dieu est intéressé jusque dans les moindres détails de ma vie, de ce que moi je fais. Pourquoi? Parce que, comme David va expliquer dans ce passage, c'est Dieu qui m'a créé. Vous savez, lorsque vous créez quelque chose d'artistique, peinture, tableau, quelque chose de mécanique, peu importe, vous créez quelque chose, vous y êtes attaché, n'est-ce pas? C'est à vous. Alors que si quelqu'un d'autre crée quelque chose et vous le donne, bon, c'est gentil et tout, mais voilà, cela ne nous appartient pas, c'est pas le nôtre. Mais comme Dieu nous a créés, bien sûr, il s'intéresse à nous. Et pas juste l'humanité en général, bien que ce soit vrai. Mais Dieu, aujourd'hui, s'intéresse individuellement, particulièrement à chacun de nous. Et ce, malgré les manquements, le péché, l'infidélité que nous pouvons avoir. Et si cette pensée-là ne vous dépasse pas, votre vision de Dieu est trop petite. Parce que le grand Dieu de l'univers qui s'intéresse à moi, alors que sans Dieu, j'étais totalement son ennemi, rien en moi qui méritait d'être aimé, et que ce Dieu-là s'intéresse à moi. Que déjà, il m'a sauvé. Si j'ai placé ma foi, confiance en lui pour le salut, c'est tellement merveilleux. Et on comprend pourquoi, quelques versets plus loin, David va dire, mais cette pensée-là, que Dieu s'intéresse à moi, je ne peux pas la saisir. C'est trop. C'est trop pour moi. Que Dieu s'intéresse à moi, non, mais je ne le mérite pas du tout. Non, moi je ne suis rien. Et pourtant, Dieu m'aime. Dieu agit en moi. Dieu me connaît. Et verset 2, il va continuer, « Tu pénètres de loin ma pensée. » Et ça peut faire peur. Dieu connaît nos pensées. Si ça n'effraie pas, il y a peut-être quelque chose qui ne va pas. Parce qu'on n'a pas toujours les pensées justes. On a parfois les pensées sur certaines personnes, sur certaines décisions. On est frustré. Et là, Dieu connaît ces pensées-là. Qu'on le veuille ou pas. Mais aussi, Dieu connaît toutes les bonnes pensées qu'on a. Le fait que Dieu connaît nos pensées et que malgré cela, il nous aime, ça doit faire rejaillir de nous la louange et le remerciement envers Dieu. Parce qu'on pourrait dire, « Ouais, mais si Dieu savait comment j'étais vraiment, il ne m'aimerait pas. » Ah bon? Non, mais Dieu nous connaît. Et malgré cela, il nous aime. C'est quelque chose de formidable. Et verset 3, il continue, « Tu sais, quand je marche, quand je me couche, tu pénètres toutes mes voies. Il n'y a rien qu'on puisse faire que Dieu ne sache pas. » Dieu s'intéresse à tout de notre vie individuellement. Et comme il est Dieu, vous le savez, tout comme il est en train de le faire pour moi, il est en train en même temps de le faire pour chacun de vous, individuellement. Ce n'est pas comme si, il est occupé de moi, il ne s'occupe pas des autres. Non. Dieu est assez grand pour pouvoir s'occuper de moi et vous en même temps. Et de tous les milliards de personnes sur la terre. Alors, si ça, ce n'est pas un grand Dieu, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Et David, il avait compris cela. Il dit, ce Dieu-là s'intéresse particulièrement à moi. Dans tout ce que moi je fais, les choses les plus banales, qu'est-ce que ça peut faire à Dieu? Ça fait que je suis sa créature. Et il m'aime. Et là, verset 4. Regardez. La parole n'est pas sur ma langue. Je ne l'ai même pas dit. J'ai simplement pensé. Et là, déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Et on peut se dire, mais si Dieu sait toute chose, si Dieu sait déjà ce que moi je vais dire, à quoi bon lui dire quoi que ce soit? Puisque de toutes les façons, il sait tout. Donc moi, je n'ai même pas besoin de prier parce que de toutes les façons, Dieu sait ce que moi je vais dire. Et ça, c'est un faux raisonnement. Parce que Dieu veut que ses enfants expriment envers lui, bien sûr, la louange, l'adoration, mais aussi tous leurs soucis. Je vous encourage à faire la chose suivante. Vous prenez les psaumes. Alors, il y en a 150, il y en a pas mal. Certains sont courts, d'autres sont longs. Mais vous les prenez et vous relevez toutes les fois où David, ou même Salomon, les autres auteurs des psaumes, expriment le sentiment de leur cœur où ils en ont marre, où ils semblent ils n'en peuvent plus. Ils expriment du dégoût, comme David va le faire ici, pour les ennemis de Dieu, lorsqu'ils expriment que tout va mal. Vous prenez chaque passage qui parle de cela et regardez comment Dieu traite avec ces personnes. Dieu ne dira jamais, mais vous n'avez pas à avoir ces pensées. Non, mais qu'est-ce que vous faites là, avoir ces pensées là? Non, non, non. Dieu se révèle lui-même face à ses pensées. Et cela doit nous encourager parce que parfois nous pouvons avoir ces mêmes sentiments. Mais Dieu, cette vie, elle est tellement dure. Dieu, il y a des personnes qui sont contre moi. Dieu, je suis dans une situation tellement difficile. Et parfois, nous pouvons hésiter à apporter ces sentiments à Dieu. De dire, ah bah Dieu, il ne veut pas entendre parler de ça. Non, Dieu, il a d'autres choses dont il doit s'occuper. Non, mais moi, je suis enfant de Dieu, je suis meilleur que ça. Non, non, toutes ces pensées-là, il faut les bannir. Il faut être vrai avec Dieu parce que de toutes les façons, il connaît nos pensées. Et malgré cela, il veut qu'on les exprime à lui. Dieu ne dira jamais à nous, bah, j'ai déjà entendu ça. Ou, ah, tu as déjà demandé pardon pour telle ou telle chose, ou tu m'as déjà exprimé cela, c'est bon, là, je sais, je vais m'en occuper. Non, 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 Dieu ne fera jamais ça. Et pourtant, si nous ne faisons pas attention, nous pouvons nous laisser entraîner dans cette tentation de croire que bah, Dieu ne s'intéresse pas vraiment à nous. Même si on sait au fond de nous que ce n'est pas vrai, que finalement Dieu s'intéresse à nous, mais dans nos actions de tous les jours, dans nos pensées, dans nos paroles, nous agissons autrement. Dieu nous connaît jusqu'au moindre détail. Et malgré cela, il nous aime. Il agit pour nous. C'est tellement formidable. Et c'est ce qui permet au verset 6 à David de dire « Une science, une connaissance que possède Dieu, aussi merveilleuse, est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. » On commence à vraiment réfléchir à Dieu, sa grandeur, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il a fait dans l'éternité passée, tout ce qu'il va faire dans l'éternité à l'avenir. Et là, on a la tête qui explose, n'est-ce pas? Vous prenez les photos de l'espace et vous commencez à regarder sur Internet. Vous passez 10-15 minutes, pas plus, parce que sinon, bah, on se sent tellement, tellement petit. On dit, bah, Dieu, il est encore plus grand que ça. C'est merveilleux. Et David dit, je ne comprends pas comment Dieu il peut s'intéresser à moi. Et pourtant, il le fait. Mais David met l'accent pas simplement sur la connaissance que Dieu a de toutes choses et particulièrement de nous individuellement, mais aussi sur sa présence. Et c'est ça qui est formidable. Regardez verset 5. « Tu m'entoures par derrière et par devant. Tu mets ta main sur moi. » Verset 7. « Où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face ?» Alors, la réponse sous-entendue à ces questions, c'est nulle part. Est-ce qu'on peut fuir Dieu? On a la preuve en Jonas. Pauvre homme a essayé de fuir Dieu, comme déjà si c'était possible, et on voit ce qui lui est arrivé, passé 3 jours, 3 nuits, dans le ventre d'un gros poisson, ce qui doit nous servir d'exemple. Il est inutile, illogique et contre-productif d'essayer de fuir Dieu. Et pourtant, peut-être pas physiquement, mais dans ce que nous faisons au jour le jour, on essaie de fuir un peu Dieu. On sait ce qu'il attend de nous, mais on ne veut pas trop. On sait que bah, on doit aller parler avec telle ou telle personne, ou on doit aider ici, ou on doit être à telle ou telle réunion, ou peu importe. Et on se dit, bah, non, je ne veux pas. Bah, c'est comme David qui dit, mais où est-ce que j'irai? Bah, nulle part. Et il donne quelques exemples au verset 8. Si je monte aux cieux, tu es là. On va dire, c'est un peu logique. Dieu, il est au ciel. Nous sommes sur la terre. Mais il dit, si je monte aux cieux, tu es là. Logique. Par contre, si je me couche au séjour des morts, te voilà. Même la mort ne nous sépare pas de Dieu. Paul, il va répéter ce sentiment dans Romains chapitre 8. Qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ? Dans la liste que Paul va mentionner en Romains chapitre 8, il va mettre la mort. Rien, ni la mort ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. David, déjà presque 1000 ans avant Paul, il avait compris cela. Même la mort. Ici, se coucher au séjour des morts, il sous-entend donc la mort physique. Bah, Dieu est là, parce que Dieu contrôle toute chose. Verset 9, « Si je prends les ailes de l'aurore. » Alors, de quoi est-ce qu'il parle ici? Parce que je l'ai déjà expliqué ici, peut-être quelques-uns le savent déjà, mais juste pour expliquer de nouveau, Ici, David est en train de parler de ses premiers rayons, cette première lueur du matin, quand le soleil n'est même pas levé, mais qu'on aperçoit les quelques premiers rayons. Ben là, ça, c'est comme cette image, ça part d'un côté du ciel jusqu'à l'autre. Et c'est rapide, c'est la vitesse de la lumière. Et ici, à l'époque de David, c'était la chose la plus rapide, la vitesse de la lumière. Et il dit, ben, si je vais aussi vite que ça, et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, que j'aille aussi loin que je peux. Donc, peu importe si je suis rapide, peu importe si je vais loin. Peu importe si je suis Usain Bolt, l'homme le plus rapide de la Terre, et je cours. Peu importe si je suis Patrick, qui court très très vite, ou qui fait du vélo très vite. La vitesse, ben, devant Dieu, c'est rien. La distance, ces milliers d'années-lumière dont on nous parle pour ces systèmes solaires et tout, ben, c'est rien pour Dieu. On ne peut pas, même si on voulait, on ne pouvait pas s'éloigner de Dieu. Et verset 10. Là aussi, ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, verset 11, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscurité pour toi, la nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Non seulement Dieu est là, présent, mais il est actif. Vous l'avez vu au verset 10, même là ta main me conduira. Ce n'est pas comme si Dieu est juste à côté de nous en disant, avance, fais ta vie et tout, moi je suis là, mais bon, tranquille, moi je ne fais rien. Non, il conduit, il est actif. Pas simplement dans la vie des autres, dans votre vie. Et encore une fois, si on n'y croit pas, si on vit comme si Dieu ne contrôlait pas notre vie, notre conception de Dieu est faussée et a besoin d'être rééquilibrée. Parce que Dieu est là, il est présent et il est actif, il dirige. Il ne nous délaisse pas. Et puis, c'est Dieu qui contrôle tout, même les lois de la nature. Vous savez, qui peut faire des ténèbres la lumière? Bien sûr, aujourd'hui, avec l'électricité, on arrive à faire une partie de cela. Mais c'est Dieu qui contrôle les lois de la nature. Et quand, au verset 12, même les ténèbres ne sont pas obscurité pour toi, la nuit brille comme le jour, les ténèbres comme la lumière, parce que c'est Dieu qui les a créées. Et ce même Dieu agit pour nous. Et puisque les lois de la nature sont soumises à Dieu, bah, les autorités aussi. Nos patrons sont soumis à Dieu. Les gens qui nous entourent, nos voisins, sont soumis à Dieu, qu'ils se rendent compte ou pas. Et Dieu est en train d'agir. Et les situations qui semblent les plus complexes, les difficultés les plus grandes, les épreuves les plus difficiles, avec Dieu, peuvent être surmontées. Et là, nous pouvons avoir la victoire, parce que Dieu est là. Mais David ne s'arrête pas là, vous le savez, nous avons lu ce passage, vous le connaissez. David est entièrement convaincu que sa vie n'est pas le fruit du hasard. David savait très bien qu'il ne descendait pas du singe, ni de la poule ou que sais-je encore. David était entièrement convaincu qu'il était la création spéciale de Dieu. Verset 14. Je m'avance trop vite. Verset 13. « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. » David savait que c'est Dieu qui l'avait créé et que Dieu, en la personne de David, ne s'était pas trompé. Que David était comme il était, non pas parce qu'il avait de la chance, Non pas parce que il avait fait tant d'efforts, non pas parce qu'il avait bien entretenu son corps, non pas parce qu'il avait des gènes appropriés. Non, David était tel qu'il était parce que Dieu l'avait créé. Et c'est pareil pour vous. C'est pareil pour moi. Si je suis petit, c'est parce que Dieu m'a créé ainsi. Et moi, je peux dire avec David, Dieu, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Est-ce que je voudrais être plus grand? Oui, je vous l'avoue. Okay? Et je ne parle pas de beaucoup, quelques centimètres, ça me suffirait. Mais Dieu n'a pas trouvé bon de faire cela. Et parce que Dieu ne se trompe pas, et David, lui, il avait compris. Dieu est parfait dans tout ce qu'il fait. Et moi, je ne suis pas l'exception. Je ne peux pas dire, ah, Dieu a bien fait avec tout le monde, mais avec moi, bon, il avait une seconde d'inattention, et là, ah non. Je suis exactement comme Dieu veut que je sois, et vous aussi. Nous pouvons tous dire, je suis une créature merveilleuse. Parce que c'est Dieu qui nous a créés. Et nous pouvons dire avec David, tes œuvres sont admirables. Pas simplement les œuvres de Dieu dans la création en général, mais les œuvres de Dieu qu'il accomplit directement dans ma vie. Et c'est quand la dernière fois que nous nous sommes levés le matin, avec tout le mal que nous avons, et nous avons dit, bah, Dieu, dans ma vie, tes œuvres sont admirables. C'est une bonne habitude peut-être à commencer. Je vous avoue que moi, je ne le fais pas toujours. Donc, juste pour que vous le sachiez. Il y a des jours qui sont plus faciles que d'autres. Comprenons bien. Mais David, lui, il avait compris, c'est Dieu qui l'avait créé. Et qu'est-ce que je suis triste pour ces personnes qui croient à l'évolution, ces personnes qui croient qu'on est le fruit du hasard. On comprend pourquoi ils sont dans la tristesse. On comprend pourquoi ils n'ont pas d'espoir. Mais pour les enfants de Dieu, notre conception est tout autre. Notre assurance se trouve dans le fait que Dieu nous a créés individuellement et il s'occupe de nous. Alors, verset 15, David va continuer son explication de sa compréhension de ce que Dieu a fait pour lui dans la création, dans sa création, donc dans sa naissance. Verset 15, « Mon corps n'était point caché devant toi, lorsque j'étais fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. » Alors, entre parenthèses, ici, un verset parmi d'autres qui nous pousse à être contre l'avortement. Dès la conception, bah, il y a la vie. Et nous, parce que nous sommes attachés à la Bible, si nous le sommes, bah, nous devons être attachés aussi à la vie, dès la conception. Donc, l'avortement, pour un enfant de Dieu, est à proscrire. Et nous devons être, pas militants, mais nous devons annoncer que nous sommes pour la vie, puisque c'est Dieu qui la donne, et c'est Dieu qui la donne dès la conception. David avait compris que Dieu le voyait même quand il était, comme il explique ici, cette masse informe, avant sa naissance. La vie ne commence pas à la naissance, mais bien à la conception. Et même si on voulait pousser cette pensée plus loin, on peut dire même avant. Mais bon, ça c'est pour une discussion pour un autre jour. Et puis, David se rend compte que tout au début, Dieu le connaissait et Dieu le connaîtra jusqu'à la fin. Donc, il prend les deux extrémités, sa naissance, mais également sa mort. Regardez fin de verset 16. « Sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existe. » Dieu compte le nombre de nos jours. Dieu compte également le nombre de cheveux qui sont sur notre tête. Moi, je commence à avoir de moins en moins. Je dis aux gens, c'est parce que je m'arrache les cheveux avec tous les soucis de l'église. Mais bon, voilà. Dieu connaît le nombre de cheveux sur notre tête. Pour certains, c'est plus facile que d'autres. Il connaît le nombre de nos jours. Dieu connaît le jour, l'heure, le moment de notre mort. Et lui, il va nous garder en vie jusqu'à ce moment. Vous vous rendez compte que quelque part, de la perspective de Dieu, nous sommes indestructibles jusqu'au moment où lui, il sait que nous allons mourir. Alors, attention, cela ne nous pousse pas à l'inconscience en disant « Ah, chouette, je peux aller dans la rue et me mettre devant des voitures et là, rien ne m'arrivera. » Ne vous attendez pas à ce que Dieu vous sauve miraculeusement si vous faites ça, d'accord ? Ou on peut sauter d'un pont ou d'une falaise et là... Non. Mais parce que Dieu connaît le jour, l'heure, la seconde de notre mort, bah, il sait ce qu'il a préparé pour nous. Il n'y a pas d'incertitude avec Dieu. Nous ne savons pas lorsque nous allons mourir. Une chose est certaine, c'est que nous allons mourir. On dit parfois dans la vie, il n'y a que deux certitudes. La mort et les impôts. Okay? Alors, l'une, on pourrait s'en passer, donc les impôts. L'autre, eh ben, c'est donné à tous. Donc, la mort, à cause du péché, est entrée dans le monde. Mais même ça, Dieu contrôle. Et Dieu sait tous les jours que nous allons vivre. Ce qui fait que si vous êtes aujourd'hui en vie, Dieu, il a un projet pour vous. Dieu, il a quelque chose pour vous à faire aujourd'hui. Et la question à se poser, est-ce que vous êtes en train de le faire? Si Dieu vous a donné la vie aujourd'hui, ce n'est pas pour que nous la gaspillions. Non. Si Dieu vous a donné la vie aujourd'hui, c'est parce qu'il a quelque chose pour vous à accomplir. Un témoignage à apporter, l'amour à montrer, un service pour lui, une aide pour quelqu'un, un progrès spirituel à faire. Et justement, de se poser cette question, eh ben, aujourd'hui, avec le jour que Dieu m'a donné, parce que je ne sais pas si j'aurai demain. Dieu sait, mais moi je ne sais pas. Avec le jour que Dieu me donne, aujourd'hui, qu'est-ce que moi je fais? Parce que Dieu est tellement grand. Et parce qu'il a préparé ces choses pour moi, qu'est-ce que moi je fais? Est-ce que je reste indifférent face à ça? Ou est-ce que je demande à Dieu dans la prière de m'éclairer pour que je puisse me mettre à l'œuvre pour lui? C'était la perspective de David et c'est ce que nous devons également avoir comme perspective. Alors, nous continuons au verset 17. « Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. » Alors, ce n'est pas étonnant que David soit dans cette perspective. Devant la grandeur de Dieu et sa petitesse, il se dit « Mais c'est pas possible. Ben, Dieu, il est inconnaissable. » Et dans l'absolu, ça c'est vrai. Par notre propre intelligence, nous ne pouvons pas comprendre Dieu. Impossible. Il est tellement grand. Et voilà pourquoi Dieu est venu vers nous. Nous le savons. Et là, verset 18, si je les compte, comme si on pouvait compter les pensées de Dieu, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Alors, allez, essayez, c'est l'été, les gens ils partent à la plage, on va à la mer. Là, faites l'expérience. Essayez de compter des grains de sable. Hein? Vous en aurez vite marre. Okay? Très, très vite. Mais David dit, même si on arrivait à compter les grains de sable, les pensées de Dieu seraient encore plus nombreuses. Alors, encore une fois, ça montre la grandeur de Dieu. Et là, verset 18, je m'éveille, donc on dort bien sûr, mais on se lève, on se réveille, et je suis encore avec toi. Voyez la certitude là, cette relation que David avait avec Dieu, sa conception de Dieu, sa pensée concernant Dieu, était telle qu'il reconnaissait à la fois la grandeur, la majesté, de Dieu, mais aussi cette possibilité de connaître Dieu personnellement, de l'avoir avec lui et que David soit avec lui. Alors, on ne sait pas exactement à quel moment David a écrit ce psaume. Il y a quelques pensées là-dessus, mais si on dit que David a écrit ce psaume après son péché avec Bathsheba et le meurtre du mari de Bathsheba, Uri, il est tellement formidable de voir que David, malgré son péché, sur la base du pardon de Dieu, pouvait dire « Je suis toujours avec Dieu. Rien ne peut me séparer. Je me suis repenti de mon péché. Dieu m'a pardonné. Cette relation a été restaurée. » Dieu, il est si grand. Il ne faut jamais, jamais minimiser la grandeur de Dieu. Souvent, notre conception de Dieu, elle est trop petite. Il ne faut l'élargir. Mais en même temps, ne jamais minimiser la possibilité que nous avons d'avoir cette relation avec lui. Je m'éveille et je suis encore avec toi. La nuit, le matin, à n'importe quel moment, nous pouvons dire « Je suis avec Dieu. Dieu est avec moi. » Il n'y a aucun instant de notre vie si nous connaissons Jésus-Christ comme notre Sauveur, où nous pouvons dire « Dieu n'est pas avec moi » et que Dieu, je ne suis pas avec Dieu. Aucun. Et cette pensée-là doit être le fondement de notre assurance, le fondement de notre vie. Parce que tout dans ce monde va essayer de nous faire penser le contraire. De nous faire penser que nous perdons notre temps avec Dieu, avec la Bible, avec l'Église, avec ce que nous faisons pour Dieu. Mais il faut revenir à des passages comme celui-ci et voir l'exemple de David qui, lui, était totalement pris avec cette idée « Je suis avec Dieu, Dieu est avec moi. » Et parce que David avait cette conception correcte de Dieu, parce que sa pensée avait été rééquilibrée, c'est ça qui lui permet, au verset 19, de dire quelque chose d'assez étonnant. C'est presque comme on a un choc là. David partait dans une direction et là, on dit « Ouais, Dieu, il est grand, il est formidable, il s'occupe de moi et tout. » Et « Oh Dieu, puisses-tu faire mourir le méchant ?» Quoi ? Hein ? Non mais là, David, quand même, on veut être encouragé. On veut continuer cette louange, gloire à Dieu et tout. Et là, tu parles de mort, là, tu parles de violence. Mais David, qu'est-ce que tu fais là ? Et finalement, David ici montre que lorsque notre conception de Dieu est correcte, lorsque nous le voyons dans toute sa grandeur, lorsque nous le voyons qu'il est celui qui s'occupe de nous, jusque dans les moindres détails, qu'il n'y a pas de hasard, que la chance n'existe pas, que c'est Dieu qui dirige toute chose, face au péché, face à la méchanceté, face à l'injustice, nous pouvons avoir aussi l'attitude correcte. Et ici, David ne dit pas « Moi, je vais aller faire la guerre contre ces personnes. Moi, je vais prendre les choses en main et moi, je vais m'assurer que tout se passe bien. » Non, 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 non. Il dit « Oh Dieu, puisses-tu faire mourir les méchants ?» Dieu, tu es un Dieu de justice. Dieu, tu es celui qui ne veut pas que le péché règne. Tu es celui qui juge. Alors, je remets ça entre tes mains. Il ne dit pas, David ne dit pas, moi, je vais prendre l'épée, moi, je vais faire tout ceci ou cela. Non, Dieu, parce que tu es celui que tu es, toi, tu vas agir. Et puis, il fait cette séparation que nous aussi, nous devons faire, homme de sang, éloignez-vous de moi. David veut se préserver parce que Dieu est tellement grand, parce que Dieu a fait de tellement grandes choses dans sa vie. Il ne veut pas se mêler avec des personnes qui ne connaissent pas Dieu, des personnes qui sont contre Dieu, les ennemis de Dieu, comme il va les appeler. verset 20, ils, donc ces hommes de sang, tous ceux qui sont contre Dieu, ils parlent de toi d'une manière criminelle. Ils prennent ton nom pour mentir, eux, tes ennemis. Pourquoi est-ce que David voudrait être avec ces personnes? Il ne pourrait pas. Non. Et aujourd'hui, dans ce monde, bien sûr, nous sommes appelés à côtoyer des collègues, des voisins, d'autres personnes inconverties. Mais en même temps, nous devons faire attention, nous devons nous préserver. Parce que ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ comme leur sauveur personnel, ceux qui n'appartiennent pas à Dieu, finalement sont des ennemis de Dieu. Et peuvent nous influencer dans un mauvais sens. Et David avait cette conception de Dieu qui était tellement élevée, et il s'est dit, je ne veux que rien vienne me déstabiliser dans ma relation avec Dieu, dans ce que moi je sais, de ce que je pense de Dieu. Alors, je vais me séparer de certaines personnes, les inconvertis notamment. Pas dans l'absolu, comprenons bien, mais je vais me préserver, parce que ces personnes-là, finalement, ne sont pas pour Dieu. Ne vont pas m'aider, justement, vont faire tout le contraire. Ils sont des ennemis de Dieu. Et comment est-ce que nous, si nous sommes enfants de Dieu, nous pourrions nous associer aux ennemis de Dieu? C'est totalement illogique. Et David, lui, il avait compris. Mais c'est sur la base de ce qu'il sait de Dieu. Et verset 21, Éternel, n'aurais-je pas de la haine pour ceux qui te haïssent? On sous-entend, mais oui. Du dégoût pour ceux qui s'élèvent contre toi? Mais bien sûr, mais oui. Je les hais d'une parfaite haine. Ils sont pour moi des ennemis. Et là aussi, on se dit, mais l'amour de Dieu, il est où là? Dieu, il est amour, il veut sauver tout le monde. Cela est vrai, oui. Mais ici, David se rend compte qu'il y a des personnes qui activement cherchent à se dresser contre Dieu et contre ceux qui aiment Dieu. Et David dit, mais je ne peux pas appeler ces gens mes amis. Je ne peux pas m'associer à ces ennemis de Dieu. Ce n'est pas possible. Et nous savons avec l'équilibre que nous apporte le Nouveau Testament que nous sommes appelés à partager l'évangile, la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ à tous. Mais aussi, nous sommes appelés à reconnaître qu'il y a des gens qui cherchent activement à nous faire du mal, à faire du mal au nom de Dieu. Et nous ne pouvons pas rester indifférents face à cela. Nous ne pouvons pas dire, oh, bah, c'est pas grave, ils sont comme ça, alors voilà, il faut leur laisser et tout. Non, 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 non. Il faut appeler le mal, mal. Il faut dire, non, ces personnes sont contre Dieu et moi, je ne peux pas du tout m'associer à cela. Je voudrais tellement qu'ils viennent à Dieu, mais je ne peux pas du tout cautionner ce qu'ils font et ce qu'ils disent. Et bien sûr, ils sont pour nous des ennemis. Ils doivent entendre le salut. Ils doivent entendre la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ, oui. Mais ne pensons pas qu'ils sont comme nous. Non, ils sont des ennemis jusqu'à ce que, par la grâce de Dieu, ils reçoivent Jésus-Christ comme leur sauveur. Et c'est là où nous revenons à ce verset 23. Sonde-moi, ô Dieu. Fais un examen, une recherche profonde. Sonde-moi. Tu le fais déjà, Dieu. Mais continue. Je ne veux pas dresser d'obstacles. Tu es tellement grand. Il y a tellement de mal dans le monde. Il y a une telle lutte en moi, dit David. Que Dieu, je veux que tu continues ton œuvre en moi. Sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur. Éprouve-moi, fais-moi passer par des épreuves. Oula. Ah bon? Ben oui. Éprouve-moi, examine-moi, connais mes pensées. Je ne veux rien cacher de toi, Seigneur. De toutes les façons, je ne pourrai pas. Regarde. Si je suis sur une mauvaise voie, parce qu'il se peut qu'on y soit. Nul n'est à l'abri de s'éloigner de Dieu, de faire un mauvais choix, prendre une mauvaise décision. Regarde, si je suis sur une mauvaise voie, et là, ce qui est sous-entendu, c'est, et puis ramène-moi sur la bonne voie. Ne me laisse pas continuer dans cette mauvaise voie. Ramène-moi par ta bonté, par ta puissance, dans la bonne voie. Et là, verset 24, « Conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Pour ceux qui connaissent Jésus-Christ comme leur sauveur personnel, ils ont cette perspective éternelle de passer l'éternité auprès de Dieu dans la félicité. Et en attendant, dans cette vie aussi difficile qu'elle soit, avec tous les obstacles qu'il y a dans la vie, avec tout ce qui est même encore en nous qui déplaît à Dieu, nous avons cette possibilité de rayonner, de vivre pour Dieu, d'avoir cette perspective de David qui voyait qui était Dieu, qui est Dieu, et d'avoir un impact autour de nous. Nous n'avons pas besoin d'attendre l'éternité future pour louer Dieu, pour le servir, pour lui obéir. Non, ça se passe aujourd'hui, à condition que notre conception de Dieu soit correcte. Et il est possible que, pour différentes raisons, on se soit lassé un peu de réfléchir à Dieu, d'être sur notre garde, de vraiment penser à Dieu d'une façon juste, de le voir tel qu'il est. Il est possible que notre vision de Dieu doit être corrigée. Et alors que nous méditons sur ces versets, alors que nous pensons à notre vie quotidienne pour dire comment est-ce que je peux appliquer la grandeur de Dieu dans ma vie aujourd'hui? Qu'est-ce qui doit changer dans mon attitude, dans mes pensées aujourd'hui parce que Dieu il est tellement grand? Qu'est-ce qui doit changer dans ma vie aujourd'hui parce que je suis une créature de Dieu? Comment est-ce que je peux manifester aujourd'hui dans un monde perdu la grandeur de Dieu? Quel choix, quelle pensée, quelle parole est-ce que je peux mettre en pratique aujourd'hui pour montrer à ce monde que j'appartiens à un grand Dieu qui est avec moi, qui m'accompagne, qui me dirige et qui va juger, qui va me juger, qui va m'examiner, mais qui va juger le monde également. Comment est-ce que je peux mettre ça en pratique déjà dans ma famille, parmi mes collègues que je vais peut-être voir prochainement quand on reprend le travail, pour ceux qui sont à l'école, dans nos interactions les uns avec les autres, avec des inconvertis, comment est-ce que nous pouvons mettre cela en pratique? Ce sera différent dans la vie de chacun de nous parce que nous avons des circonstances différentes. Mais Dieu veut accomplir un changement dans votre vie au jour le jour. Et tout comme David, nous devons demander à Dieu d'enlever des obstacles, des empêchements à cela. Ayons l'attitude de David, suivons l'exemple de David ici. Laissons Dieu nous corriger dans notre vision de lui. Et puis que, comme Paul, lui, il va dire dans le Nouveau Testament, que notre progrès soit évident pour tous. À travers cette semaine, nous aurons la possibilité de mettre ceci en pratique. Qu'est-ce que nous allons faire? La puissance de Dieu nous permettra de le faire. Mais il faut demander cela dans la prière, s'adresser à Dieu, tout comme David a fait ici. Et c'est ce que nous allons faire. Je vais prier, mais en même temps, prier intérieurement pour l'aide de Dieu pour cette semaine devant nous. Prions. Oui, Seigneur, nous sommes devant toi et rien n'est caché à tes yeux. Tu vois tout. Tu es le Tout-Puissant. Tu es celui qui est à l'œuvre. Rien n'est trop difficile, rien n'est trop complexe. Tu as même tout prévu, tu vois tout, tu connais tout, tu peux tout. Et c'est devant toi que nous sommes, nous demandons ton aide parce que nous sommes faibles. Nous sommes hésitants. Nous ne faisons pas toujours ce qu'il faut. Nous demandons pardon pour nos manquements et nous demandons ton aide pour pouvoir te voir tel que tu es, que tu corriges notre vision de toi, que tu nous remplisses de zèle, que tu nous remplisses de cette assurance, que nous puissions vivre la vie que toi, tu veux pour nous, qu'il soit évident pour tous ceux qui sont autour de nous, que notre progrès soit manifeste. Et Seigneur, que tu puisses nous accompagner à travers déjà cette journée, toute cette semaine devant nous. Tu es puissant, Seigneur, et nous nous en remettons à toi. Et que toute la gloire te revienne, parce que ta puissance, tu auras travaillé dans notre vie. En ton nom, nous prions. Amen.